en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
La vertu, tel était le thème de la journée d'études organisée à l'Académie des sciences morales et politiques le 12 décembre 2007 à l'initiative du Centre de recherche en théorie générale du droit. Plusieurs académiciens et juristes sont intervenus, successivement Jacqueline de Romilly, Hélène Carrère-Dancause, Bertrand Saint-Cernin, Jean Tullard, Alain Chartier et Philippe Mallory. Vous trouverez dans la médiathèque de Canal Académie chacune de leurs interventions. Dans cette émission, Canal Académie vous propose d'écouter Hélène Carrère-Dancause, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Elle raconte pourquoi l'Académie française est tenue, par son règlement, à distribuer des prix de vertu, à prononcer chaque année un discours sur la vertu et à encourager les personnes ayant fait preuve d'actes vertueux. Elle prend soin, bien entendu, de définir ce qu'il convient d'entendre aujourd'hui par ce mot qui fait souvent sourire. Mais à l'Académie française, on ne badine pas avec la vertu. À preuve, les propos d'Hélène Carrère-Dancause, enregistrés par Canal Académie.
Après les remarques si profondes et qui élèvent tellement le cœur et l'esprit de Madame de Romilly, je voudrais placer dans ce colloque où on va parler de la vertu sous tous ses aspects, je voudrais la placer dans ses remarques préliminaires sous un éclairage, celui de l'Académie française. Je pense que c'est pour cela que je suis là, car la vertu, c'est une partie de l'Académie française. Alors, vous ne vous étonnerez pas si je commence par ce que l'Académie française fait en permanence, c'est-à-dire par regarder ce que signifie vertu ou comment la vertu a été perçue par les dictionnaires. Le dictionnaire de l'Académie française, sa première édition, traite la vertu de la façon suivante. C'est l'efficacité, la force, la vigueur, une aptitude de l'âme qui la porte à faire le bien. C'est un propos moral. Furtière, notre confrère dissident, et qui s'était tout de même appuyé sur les travaux de l'Académie française pour faire son propre dictionnaire, a une dizaine de sens. Et c'est extrêmement intéressant parce que tous, alors, ont trait à la force, peu à la morale, et en dernier, tout à fait, on voit apparaître, je cite, aussi figurément, c'est pas grand-chose, hein, disposition de l'âme ou habitude de faire le bien. On voit très bien que Furtier n'avait pas beaucoup de confiance dans cette aptitude de l'âme. Littré dit que c'est une force morale, le courage, une forte disposition de l'âme à faire fuir le mal et à faire le bien, se dit de telle ou telle qualité particulière, et en dernier vient chasteté, pudicité. Et comme nous en sommes à la 9e édition du dictionnaire, nous ne sommes pas à la lettre V, je me suis reporté au Robert, au grand Robert, qui dit, car nous sommes aujourd'hui, énergie morale, force d'âme, vieillie, force avec laquelle l'homme tente à faire le bien. C'est vieilli. Chasteté. Bon. Au fond, on peut dire que la vertu, même dans les dictionnaires, n'a pas tellement bonne presse. Et qu'elle n'a pas eu très bonne presse pendant très longtemps. Bon, quand on regarde le Tartuffe de Molière, il est clair que la vertu est plutôt maltraitée. La Bruyère dit qu'avec la vertu, on peut être insupportable. Je vous cite La Rochefoucauld. Les vices entrent dans la composition de la vertu, comme les poisons entrent dans la composition des remèdes de la médecine. La prudence les assemble et les tempère. Elle s'en sert utilement contre les maux de la vie. Bon, Sade était beaucoup plus brusque. Pour lui, la vertu était un piment pour les exercices des libertins. Mais Madame de Staël dit « La vertu tient un langage pour le vulgaire, que les augures ne peuvent se parler sans rire. » Pourtant, Madame de Staël était une femme de bien. Voltaire l'appelait Cunégonde et ne l'aimait pas. Et au fond, il faut attendre Saint-Just et Robespierre pour se voir offrir le choix entre la vertu ou la terreur. Bon, c'est une réhabilitation de la vertu, mais je dirais qu'il me semble qu'on préfère, si on a à choisir, qu'on préfère dîner avec Mirabeau, qui n'était pas vertueux, qu'avec Saint-Just et Robespierre. Donc, vous voyez que, quand on y réfléchit, on se rend compte que la vertu était tout de même considérée de façon assez étrange. Alors, venons-en à l'Académie. Il se trouve que toutes les académies ont des missions. Mais en général, ces missions sont exprimées d'une façon assez large, abstraite, et il n'y a pas de... Les missions pointues sont rarissimes. L'Académie française a deux missions extraordinairement précises, dans une mission large, qui est sa mission culturelle, sa mission de maintien du patrimoine. Sa première mission, elle lui a été confiée par Richelieu en 1635, veiller à la langue, et d'où le travail très précis du dictionnaire, qui n'est qu'une part des activités de l'Académie, mais qui est centrale. Et deuxième mission, qui date de 1782, qui nous a été confiée par M. Antoine Jean-Baptiste Robert-Auger de Montyon, un financier anobli depuis peu, ça se sent d'ailleurs dans ses propos, ami des philosophes, assez voltairien. Et là, nous avons des missions très précises. Vous voyez, nous avons la langue et la vertu. Et M. de Montyon nous a donné, en 1782, un fonds, une fondation. Alors, je le cite pour deux choses. La première chose, pour récompenser des actes vertueux accomplis dans les rangs les plus humbles de la société. Deuxième partie de cette mission, faire un discours chaque année, qu'un académicien fasse un discours célébrant la vertu, discours en prose qui ne dépasse pas un quart d'heure. Et M. de Montyon avait prévu que la fondation partagerait son prix entre la personne vertueuse venue des rangs les plus humbles de la société et l'académicien qui aurait célébré la vertu. L'Académie est vertueuse, c'est-à-dire que le discours sur la vertu, l'Académie le maintient chaque année, mais l'académicien ne reçoit pas la moitié du prix. C'est extrêmement important. Vous voyez que l'Académie a fait acte de vertu. Bon, depuis 1782, l'Académie, chaque année, fait ce discours sur la vertu. Nous en sommes actuellement au 189e. Il y a eu des années d'interruption. Ce sont les années de suppression de l'Académie et toutes les années qu'elle a attendu pour revivre en tant qu'Académie française, les années de guerre. Enfin, 189 discours, vous voyez notre fidélité aux instructions de M. de Montyon. Et la Révolution est arrivée, il n'y avait plus d'Académie, la Convention la supprime, mais après le rétablissement d'un ordre rassurant pour M. de Montyon, qui était réfugié en Suisse, où d'ailleurs ses affaires avaient prospéré, il est revenu et en 1822, il a rédigé un testament qui est très intéressant, car... ce testament est rédigé dans les formes ordinaires, c'est-à-dire qu'il donne, fait de grandes libéralités pour les hôpitaux, les pauvres, les membres de sa famille, des amis. Il distribue une fortune considérable, mais on trouve parmi ces libéralités, ça c'est beaucoup plus étonnant, ça existe rarement dans les testaments de cette époque, d'une part, une somme destinée à sculpter le buste de Madame Élisabeth de France. Et ça serait intitulé « À la vertu ». Monsieur de Montyon avait de la suite dans les idées. Et deuxièmement, il renouvelle une donation à l'Académie française de 3000 francs de l'époque. Et avec deux tâches, tout cela va se combiner. Premièrement, il faut donner un prix à un Français pauvre et très important, qui aura fait dans l'année l'action la plus vertueuse. Et deuxièmement, donner un prix au Français qui aura composé et fait paraître le livre le plus utile aux mœurs. Et l'aspect moral apparaît là. Alors, d'abord, pourquoi ces prix ont-ils été confiés à l'Académie française ? Question intéressante. Dans ce testament, il a donné quatre prix. Deux qui favorisent quelque chose comme l'écologie, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Et un prix qui, véritablement, favorise la recherche sur l'amélioration de la condition physique des gens. Donc, qui va... certainement à l'Académie des sciences. Mais deux prix à l'Académie française, pourquoi confier la vertu avec cette constance à l'Académie française ? Il me semble que M. de Montyon a dû avoir confiance, au fond, dans la valeur des mots, qu'il s'est dit que l'institution qui avait la charge des mots, et du mot vertu, était celle qui pouvait le plus protéger le contenu, la valeur qui était véhiculée par ce mot. C'est mon interprétation, en tout cas. Alors, cela dit, D'Alembert, qui était à l'époque secrétaire perpétuel, dans la première donation, s'était interrogé, il avait dit comment comprendre cette vertu ? Et quand on regarde attentivement, car c'est en effet très intéressant de voir comment la notion de vertu évolue, quel est son contenu ? La vertu est incontestablement dans la première définition et dans l'histoire des fondations qui vont, il y a une compétition des fondations à partir de la fondation de M. de Montyon, qui viennent vers l'Académie française, et je dirais que la vertu est au cœur. même si le mot n'est pas prononcé, de la plupart de ces fondations. Il est très clair qu'elle est comprise au départ comme une compassion devant le malheur, comme la volonté de récompenser le malheur qui est digne, qui sait redresser les hommes, ou qui sait tenir les hommes. D'abord, je voudrais dire que ce qui est intéressant, c'est véritablement cette compétition de prix qui, même s'ils ne s'appellent pas prix de vertu, après, vont tous dans la même direction. Nous avons sur 205 fondations, 120 qui tous récompensent, qui essayent de soulager le malheur et qui essayent de soulager ceux qui essayent de récompenser ceux qui soulagent les malheureux, c'est-à-dire ceux qui sont attirés vers l'action en faveur des malheureux. La notion de vertu prend une sorte de sens d'aide sociale qui est assez intéressante et qui montre véritablement que la vertu s'attache aux humbles, aux malheureux et à ceux qui sont auprès d'eux. Et il est significatif que le premier prix de vertu, le premier jury qui a eu à récompenser un prix de vertu, avait le choix entre deux candidats. Un passant qui avait sauvé deux enfants qui étaient tombés dans la Seine et une garde-malade bénévole qui se dévouait auprès des pauvres. Bien, c'est la seconde qu'on a choisie. Et c'est assez indicatif. Qu'est-ce qu'on a choisi ? On a choisi la durée de l'action vertueuse plutôt que la spontanéité de l'acte vertueux. La notion de vertu a certainement une sorte de contenu, de continuité et pas d'acte isolé. Et je dirais que quand on regarde les jurys, c'est à peu près comme ça. Bon, quand on regarde la disposition, au fond, de ces prix, il est très intéressant qu'une certaine partie récompense les actes de courage, tout ce que l'on voudra, mais 80% découlent d'une source familiale. Ces prix de vertu vont vers les enfants dans une famille humble, toujours, qui s'occupent de leurs vieux parents, des personnes qui s'occupent toujours auprès des plus humbles, qui s'occupent de soulager la misère. Donc il y a une vraie volonté sociale dans cette récompense de la vertu. Alors, autre point, tous ces prix, en majorité, récompensent des femmes. Les vertueuses sont des femmes. Plus de 40 fois, ce sont des femmes qui sont désignées dans toutes ces fondations, 10 fois seulement des hommes. Alors nous avons la rosière aussi, on n'a jamais vu récompenser un rosier. Mais vous voyez qu'il y a une orientation assez particulière à cet égard. Alors, le discours sur la vertu, j'y viens, cette vertu a été célébrée. Elle a été célébrée avec beaucoup de constance par divers membres de l'Académie. Je vous en donnerai tout à l'heure une petite énumération. Alors, il y a d'une part le discours sur la vertu et le prix de vertu qui récompense aussi les ouvrages dans la disposition de 1822, l'ouvrage qui est le plus propre à être utile aux mœurs. Alors, un détail amusant, c'est que Balzac a été candidat 3 fois à ce prix. Balzac était couvert de dettes. Chaque fois qu'il était très endetté, j'ai regardé, ça coïncide dans les moments les plus difficiles de son existence. Alors, il a cherché à décrocher le prix lorsqu'il a publié Le médecin de campagne. Il a estimé que c'était une illustration de la vertu. Il ne l'a pas eu. Ensuite, lorsqu'il a publié Le curé de village, et enfin, lorsqu'il a publié L'envers de l'histoire contemporaine, il n'a jamais eu le prix. Encore qu'on peut dire que beaucoup d'ouvrages récompensés publiés dans l'année correspondent assez au contenu des ouvrages de Balzac. Je crois qu'on a considéré que Balzac lui-même n'était pas un modèle de vertu, que d'une certaine façon, il n'y avait pas d'équation entre le contenu de l'ouvrage et l'auteur lui-même. Et il en a conclu avec beaucoup d'amertume. D'ailleurs, Balzac, c'est un cas terrible. Il a été refusé pour le prix de vertu, qui était assez élevé à cette époque-là pour qu'il ambitionnât de l'avoir. Et puis, il a été repoussé par l'Académie française. C'est pour ça que je le cite avec une certaine tristesse. Mais il a dit, et c'est ça qui est important, il a dit, en définitive, la vertu, on la trouve dans la littérature des livres de demoiselles. Je vous livre ce propos. Alors, depuis cette époque, on peut dire donc que l'Académie récompense d'abord une personne vertueuse issue des milieux les plus humbles. Elle donne un prix pour un acte vertueux dans l'année et elle ne récompense pas, elle perpétue le discours sur la vertu. D'abord, je voudrais dire qu'il a été fait, ce discours, par toute l'Académie. Tout le monde, Madame de Romilly, d'ailleurs, s'y est soumise à ma connaissance. Elle l'a fait aussi, le discours sur la vertu. Je veux dire que tous les grands académiciens se sont soumis à cet exercice qui n'est pas considéré comme quelque chose de facile. Traiter pendant un quart d'heure de la vertu, quand on est le premier à le faire, ça va très bien, on sait à peu près ce qu'on dit. Mais quand on est le 160e ou le 170e, on se dit, qu'est-ce que je vais ajouter à cette vertu? Bon, on y trouve les plus grands noms. Guizot, Cuvier, Renan, Paul Valéry, Pagnol, Paul Morand, des gens les plus inattendus se sont livrés à cet exercice. Et je dirais que quand on lit attentivement les discours sur la vertu, c'est très amusant de voir qu'il y a de plus en plus, plus le temps passe, l'imagination vagabonde, que certains peuvent s'attacher tout simplement à célébrer la vertu de la bande dessinée, on ne voit pas très bien le rapport, ou la vertu d'un village qui s'appelle Vertu. Mais nous avons eu récemment François Cheng qui véritablement a réussi à nous montrer qu'il y avait ce qu'était la vertu dans une version chinoise, qui était à la fois la vertu du beau et du bon. Quand on fait la somme de tout cela, au fond, quelle remarque peut-on faire ? D'abord, c'est qu'il y a une vertu au masculin et une vertu au féminin. Ce n'est pas tout à fait pareil. Parfois, il y a une combinaison des deux, dans certains cas. Je vais revenir sur la vertu masculine et féminine. Il y a une combinaison des deux. Je dirais que, dans les exemples cités, Jeanne d'Arc, c'est clairement la vertu au masculin, la guerrière, et puis c'est la pucelle, probablement Jeanne Hachette. Saint-Louis, qui combine les deux, c'est le guerrier, et c'est tout de même, je dirais, la vertu morale dans sa splendeur, probablement Saint-Vincent de Paul. Mais, hors ces cas, il y a véritablement un partage. La vertu, il y a la vertu des hommes. La vertu des hommes, elle est protectrice, elle est guerrière, elle est politique. La vertu des femmes, telle qu'elle est célébrée par la littérature, par nos prix, une fois encore. La vertu des femmes, les femmes sont supposées soigner les malades, s'occuper des pauvres, s'occuper de leurs vieux parents, défendre leur vertu, enfin je vais y revenir. Mais elle n'a pas ce côté défenseur de l'humanité qu'ont les hommes. Et toute la littérature populaire en témoigne. La littérature populaire n'est peut-être pas de la grande littérature, mais l'Académie française la respecte beaucoup, que l'on prenne, je dirais, Les Misérables qui relèvent de la littérature populaire, que l'on prenne La Porteuse de pain, tout ce que les deux orphelines, on voit très bien où est la vertu. Elle est chez les pauvres, elle est à la fois dans cette compassion que les femmes peuvent exercer, dans l'aide qu'elles peuvent apporter à autrui, c'est là que se trouve la vertu. Chez les hommes, en définitive, la vertu est identifiée au courage. Chez les femmes, eh bien, il faut du courage pour rester vertueuse. Et Stendhal l'a très bien dit. Il a dit, le malheur des femmes, c'est que leur courage est toujours employé contre leur bonheur. Et ça, c'est un autre sens du mot vertu. La vertu n'est pas seulement masculine ou féminine, elle n'est pas seulement un sens différent. Je dirais que quand on voit comment elle a été saluée, il est clair qu'elle n'est pas la même selon la naissance et selon le lieu social. La vertu de Madame Boussicot, ça n'est pas la vertu de la Rosière. Ce sont deux vertus totalement différentes. Et on salue la vertu des deux. Monsieur de Montyon, lui, a voulu rendre hommage à la vertu des humbles. Ce n'est pas la vertu de Madame Boussicot, c'est à la vertu de la Rosière. C'est à la vertu des plus humbles. Et une fois encore, il le dit, partout cela revient, la vertu des gens du commun. C'est cela que, pour lui, là que se situe la vertu. J'ajouterais que quand on regarde attentivement, la vertu a nettement besoin d'un adjectif, plus on avance dans le temps. Il y a la grande vertu, il n'y a pas de moyenne vertu. La moyenne vertu, personne ne l'imagine. On a une grande vertu, et la petite vertu a un sens tout à fait différent. Une dame de petite vertu, ça n'est pas du tout quelqu'un qui a la vertu au sens des dictionnaires, sauf de temps à autre. C'est une périphrase remarquable, d'ailleurs, cette petite vertu. Alors, je terminerai en disant que l'Académie, depuis plus de deux siècles, s'obstine à remplir la mission qui lui a été confiée, s'obstine à essayer de saluer. Bon, les discours sont des discours amusants, où il y a des variations, mais en définitive, on revient toujours au thème de la vertu tel que Madame de Romilly l'a exposé, c'est-à-dire à ce modèle qui est emprunté à toute notre tradition culturelle issue des anciens. Mais l'Académie est obligée de constater que la notion de vertu s'est atténuée, qu'elle sait qu'il y a d'une certaine façon, elle a été souvent dévoyée. Et nous essayons de maintenir, malgré les railleries, parce que ça fait rire, hein, le discours sur la vertu ou les prix de vertu provoque des rires extrêmement grossiers. Et on se dit, que sont ces gens déguisés qui s'obstinent une fois par an à saluer des vertueux et à proclamer que la vertu existe? Alors, pourtant, je dirais que l'Académie est tout à fait intraitable. Elle estime qu'on ne badine pas avec la vertu, comme Marivaux, notre confrère disparu estimé qu'on ne badine pas avec l'amour. Et je dirais en terminant que ce qui est encourageant, c'est que nous recevons des cautions extraordinaires. En 1845, le directeur en exercice de l'Académie s'appelait Monsieur Dupin. Il a remis, c'était un voltairien d'ailleurs cet homme, mais il a remis en grande pompe le fameux prix de vertu de 3000 francs à une dame Jeanne Jugand qui était domiciliée près de Saint-Malo et qui s'occupait des pauvres. Le 3 octobre 1982, le pape Jean-Paul II proclamait bienheureuse la même Jeanne Jugand qui avait été la fondatrice des petites sœurs des pauvres. Eh bien, cela montre que notre conception de la vertu, elle a une caution solide, c'est-à-dire que c'est une conception qui traverse les âges et qui, malgré, je dirais, toute la dérision qui entoure parfois nos manifestations de respect pour la vertu, a tout de même le mérite, comme nos efforts pour maintenir la langue, de maintenir une certaine idée intangible de la vertu. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, s'exprimer lors de la journée d'études consacrée à la vertu. D'autres intervenants académiciens et invités, Jacqueline de Romilly, Bertrand Saint-Cernin, Jean Tullard, Alain Chartier, Philippe Mallory, ont également été enregistrés et vous les trouverez dans notre médiathèque. Il suffit de taper le mot « vertu ».